Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, on va aborder un sujet un peu spécial parce que il y a tellement de questions qui me sont posées sur à cause de Facebook, qui nous avons une page Facebook maintenant. Alors, il y a des gens qui m'écrivent non pas en direct, mais qui m'écrivent à côté par comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ce truc. Mon petit-fils serait mort de rire en voyant Messenger, voilà, c'est ça. Et alors, ils me posent des questions, ils sont un peu troublés avec tout ce qui se passe, tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Il y a des choses bien étranges qui se produisent dans les églises en ce moment depuis quelques années déjà. On voit des gens qui se mettent à prophétiser, et qui ont des vies de patachons. On en voit qui se roulent par terre, qui tombent, qui rient, enfin bon. Alors, que penser de tout ça? C'est pas facile. On va prier. Seigneur notre Dieu, éclaire-nous, montre-nous, donne-nous d'être vraiment équilibrés et de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas condamner parce que ça nous semble étrange, mais d'être équilibrés. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, moi, dès le début de ces manifestations bizarres, j'ai tout de suite su que c'était pas correct. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui devrait faire réfléchir tous les chrétiens qui suivent ces rencontres où se produisent toutes ces extravagances. Je ne dis pas que toutes ces extravagances-là viennent du diable, pas du tout. Mais c'est sur un autre point que je voulais insister. On va commencer par lire, si vous voulez. Enfin, bien sûr, vous voulez, puisque vous êtes venu sur Révélation Bible. On va lire 1 Samuel 19, versets 18 à 24. C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama. Il s'est échappé parce que Samuel voulait lui faire la peau. Pas Samuel, parce que Saül voulait lui faire la peau. Il se rendit vers Samuel, donc le prophète, à Rama, et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Vous voyez, des fois, ça fait du bien de parler à un serviteur de Dieu pour raconter ce que les gens nous font. Puis il alla, avec Samuel, habiter à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: David se trouve à Najoth, près de Rama. Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser. On le rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Et il envoya encore pour la troisième fois, enfin bon, et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à ses coups, il demanda: Où sont donc Samuel et David? On lui répondit: Ils sont à Najoth, près de Rama. Il prit donc la direction de Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout le jour et toute la nuit. Voilà pourquoi on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Vous savez, le vent souffle où il veut, c'est pas à nous de critiquer ce que le Saint-Esprit fait. Moi, je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agissait là et qui a saisi Saül. Vous voyez, par exemple, dans Actes chapitre 2, il nous est dit que quand les disciples ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit, ils étaient comme, les gens les voyaient comme des gens ivres, sous. Ils titubaient, quoi. Ils avaient l'air bizarres. Et le Saint-Esprit, de nos jours, est répandu sur toute chair, selon la prophétie de Joël. C'est-à-dire qu'elle est aussi, le Saint-Esprit est aussi répandu sur des gens qui sont pas très nets, 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 nets. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez, dès le début, de la Genèse, on voit que l'Esprit de Dieu bouge. Hein, c'est écrit: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il se meut. Alors, c'est à nous de le suivre. C'est à nous de le suivre. Et pour le suivre correctement, nous avons à obéir aux bonnes lois de Dieu. La Bible dit: Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Mais il y a des cas. Et ça, on va parler de ça ce soir. Sinon, si on n'obéit pas, on peut être pris momentanément dans cette mouvance. Le Saint-Esprit se meut, n'est-ce pas? Ça a été le cas pour Saül et si nous ne faisons pas ce que le Saint-Esprit dit, eh bien, nous pouvons, comme Saül, prophétiser et faire toutes ces choses. C'est pourquoi, à la fin, ils naquiront, mais n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Arrière de moi, je ne vous connais pas. Voilà. Si nous ne faisons pas ce que le Saint-Esprit dit, si nous ne sommes pas bien établis dans les Écritures pour connaître ce que Dieu veut et le faire, alors nous pouvons prophétiser comme Saül, parce qu'on est saisi par véritablement le Saint-Esprit. Saül, lui, ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu. Lui, ce qu'il voulait, c'était tuer David. Mais quand il va se trouver là où l'Esprit de Dieu se meut, eh ben, il se met à prophétiser. Alors, les gens étaient étonnés, comme certains peuvent être étonnés en voyant, moi, j'ai entendu parler dernièrement d'un prophète qui est saisi comme ça par le Saint-Esprit, puis qui annonce des choses et tout, mais puis vous regardez sa vie d'un autre côté, si, ben, il a quitté sa femme, il a, comme ils disent en Afrique, engrossé une jeune fille de son église, et puis après il l'a fait avorter, et puis enfin c'est c'est épouvantable, je le connais. Alors, est-ce que c'est un envoyé de Dieu, cet homme-là? Non. Mais il est parfois sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est là que le peuple de Dieu doit faire attention. Comme Saül dans le chapitre 19, il est parfois dans la mouvance du Saint-Esprit. Regardez le même Saül au chapitre 20. Saül est possédé par un mauvais esprit qui cherche encore et toujours à tuer David. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment un homme saisi par un esprit mauvais peut-il être saisi par moment par l'Esprit de Dieu et se mettre à prophétiser et... Ah. Quand Saül était dans l'ambiance spirituelle, il y était sensible. Vous avez vu, il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi ses troupes qui ont été saisies comme ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu souffle quelque part, c'est puissant. Alors, Saül était sensible et il s'imbibait en quelque sorte de l'atmosphère ambiante, n'est-ce pas? Et c'est ainsi partout. Si vous fréquentez des gens tristes, sans parler de chrétiens ou pas, vous fréquentez des gens tristes, au bout d'un moment vous allez devenir triste. Il y a une ambiance de tristesse, de morosité, parce que vous allez être influencé par l'atmosphère ambiante. Vous voyez? Dieu, il connaît très bien ce phénomène. On va lire Deutéronome 20, verset 8, vous allez voir. Dieu connaît très bien ce truc-là. Il dit, les officiers continueront à transmettre des instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage? Il dit, ceux qui ont peur et qui manquent de courage, qu'ils s'en aillent et retournent chez eux afin que leurs frères ne se découragent pas comme eux. Vous voyez? Si quelqu'un a peur et qu'il manque de courage, ça peut être contagieux. Toutes ces choses-là peuvent être contagieuses. L'ambiance, ne soit-ce c'est quelque chose d'important, l'ambiance. Et quand Samuel se trouvait dans une ambiance, pas Samuel, Saül se trouvait dans une ambiance spirituelle, il devenait saisi par l'Esprit de Dieu. Samuel, il avait toute une équipe, comme Élie en avait une aussi, une sorte d'école prophétique, si vous voulez. Et les extravagances peuvent venir de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, quand les gens ont vu Saül se mettre tout nu par terre, ils ont dit « Oh là, mais alors est-ce qu'il serait devenu prophète ?» Parce que c'était courant qu'il y avait des extravagances. À la Pentecôte, comme je vous le disais tout à l'heure, les 120 paraissaient ivres. Ézéchiel tombait en extase. Vous lisez ça dans Ézéchiel, chapitre 1, je ne sais plus exactement le verset. David, lui, c'est marqué qu'il perdait toute vigueur. Daniel 18. Jérémie, il avait un comportement proche du délire. Et, enfin, c'est du moins ce que ses ennemis disaient. Jérémie 29, 26. Là, je suis comme un fou. Vous lirez aussi Osée 9, 7, comparé à un dingo. Et quand Saül se met tout nu, les gens disent, et c'est pourquoi la Bible dit, et c'est pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes? Vous voyez? Donc il peut y avoir des extravagances chez les véritables hommes de Dieu, chez les gens qui sont saisis par le Saint-Esprit. Donc, qu'on se roule par terre, qu'on se comporte étrangement, pourquoi pas? Moi je suis pas tellement pour, je trouve, en tout cas c'est pas nécessaire, mais bon, il y en a, ça leur arrive, c'est bien. Moi, dans mes réunions, je dis, s'il y en a un qui se roule par terre, j'arrête de prier pour les malades. Et il n'y a jamais personne qui se roule par terre. Et les gens sont guéris. Vous voyez, c'est aussi, je mets une autre ambiance quand j'arrive quelque part. Je ne leur permets pas de faire certaines choses que je trouve... pour moi, je trouve ça bizarre. Bon, chacun... Mais je veux pas critiquer, puisque je vois même ça dans la Bible. Donc, voilà. C'est pas là-dessus qu'on peut juger si le prophète est vrai ou faux. Parce que le Saint-Esprit fait parfois agir les gens d'une façon un peu étrange, comme on vient de le voir là tout de suite dans la Bible. Ce qui est important, c'est la personne qui prophétise. La personne qui prophétise, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est une personne fausse ou une personne vraie ? La Bible nous dit qu'à la fin, il y aura des faux Christ. Christ, ça signifie « ouin ». C'est-à-dire qu'il y aura des faux « ouin ». Ils seront véritablement ouin, comme l'autre là-bas qui a jeté sa femme dehors, enceinté une jeune fille, qui l'a fait avorter, etc. Il est vraiment ouin. Par moments, il est vraiment ouin. Mais il est faux. Des gens faux, mais ouin du Saint-Esprit, comme Saül, vous voyez. Saül voulait la mort de David. Comme on connaît un certain prophète qui veut ma propre mort. Il avait annoncé ma mort pour le mois de septembre 2015. Là, ça a raté. Oups. Et puis après, il a prophétisé que tous les frères et sœurs qui me suivaient allaient mourir. On est encore tous là. Bon, gloire à Dieu. Chose étrange aussi, l'influence de la musique. La musique. David, il écrivait sous l'inspiration divine. Il se faisait accompagner par de la musique. La musique rend sensible à l'Esprit Saint. Vous trouvez toujours dans les psaumes le luth, la harpe, etc., etc. Souvenez-vous que quand Saül était sous l'influence de mauvais esprits, de démons, on faisait venir David pour qu'il joue de la harpe. Si un musicien inspiré joue, ça peut apaiser les souffrances causé par le tourment d'un mauvais esprit. Alors, attends, on va lire ça dans 1 Samuel 16, 23. Dans le monde, on dit « la musique adoucit les mœurs hein ». 1 Samuel 16, 23. « Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait, et Saül se calmait alors et se sentait mieux. » Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne revenait pas après, il revenait, mais il s'éloignait de lui momentanément. Alors voilà pourquoi il est bon d'avoir des bons musiciens sanctifiés dans l'église. Moi, je me rappelle toujours d'une église où il y a plus de 2000 membres, et le pasteur m'a dit, moi, je suis très au courant que la moitié des gens de la chorale sont dans la fornication. Mais qu'est-ce qu'il attend ? C'est infernal, ça. C'est bizarre, moi, je dis qu'il faut que les musiciens soient sanctifiés dans l'Église. Et ceux qui sont sensibles vont y trouver un bénéfice spirituel. Peut-être momentané, mais c'est déjà ça de prix. Alors bon, la musique ne chasse pas les mauvais esprits. C'est Jésus qui chasse les mauvais esprits. Mais la musique a la capacité de les éloigner un moment. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le monde, on sait bien, hein, la musique adoucit les mœurs. Ça dépend de quelle musique aussi. La musique de la harpe de David, elle neutralisait l'esprit malin et Saül, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Samuel, Saül devenait différent, aimant David, comme son propre fils, etc. C'est étrange, n'est-ce pas ? La musique ne crée pas l'onction, comme disent certains, non, pas du tout. Mais elle stimule une ouverture dans les cœurs. On va lire un autre texte dans Un roi 3:15. Maintenant, alors, c'est Élisée qui parle. Il est dans une situation conflictuelle. Il dit, maintenant, amenez-moi un harpiste. Et tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça, voici ce que dit l'Éternel, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, Élisée avait une double portion de l'esprit d'Élie. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'un joueur de harpe? Il n'avait pas normalement besoin de musique pour faire venir l'esprit de prophétie. Bien sûr que non. Mais là, Élisée était dans un environnement spirituel hostile, vous lirez tout le contexte, vous allez voir, et la musique a aidé, a permis à Élisée de pouvoir donner librement ce qu'il avait à donner de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas la musique qui apporte l'onction. Un vrai prophète a besoin de ranimer le don qu'il a reçu de Dieu. Comme Paul disait à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parfois, un vrai serviteur de Dieu peut laisser s'éteindre le feu parce qu'il est en présence de personnes hostiles, incrédules, pleines de jugement, pleines de critiques. C'est pour ça que j'ai quitté le château. Bref, pour l'homme de Dieu et pour la femme de Dieu, nous ne devons pas chercher l'ambiance, même si l'ambiance peut nous aider. Non, nous devons chercher la force de Dieu, la face de Dieu, nous mettre dans la prière, chercher Dieu, chercher le Seigneur, chercher dans l'ambiance. C'est un petit peu comme, vous savez ce qui se passait là, je sais plus comment ça s'appelle, la fontaine, la piscine de Bethesda. Il y avait de temps en temps, il y avait un ange qui venait secouer l'eau, et si quelqu'un se jetait dans l'eau à ce moment-là, il était guéri. Eh bien, si on cherche l'ambiance, c'est un peu comme si on attend que l'eau se mette à bouger, n'est-ce pas, pour que quelque chose de spirituel nous arrive, la mouvance de l'eau. Mais ça fait entrer dans l'éphémère, mes frères et sœurs. Là, Jésus, il est entré dans cet endroit, il a guéri le paralytique, et puis voilà, c'était terminé, vous voyez. C'est en communion avec Jésus que vous pouvez être guéri, que vous pouvez être délivré, que vous pouvez être inspiré. Tout le reste, ça peut être utile, la musique, le fait de fréquenter des gens qui louent le Seigneur, et puis avec une bonne ambiance dans l'église, tout ça c'est bien, mais pensez à Saül. La manifestation du Saint-Esprit en lui n'a été qu'éphémère. Et quand il n'était plus dans l'ambiance, il redevenait le Saül rempli d'idées de meurtre et de choses comme ça. Alors je vous le dis, l'esprit de Saül, il est parmi les prophètes qui pullulent en ce moment, à gauche, à droite. Un jour, Jésus a dit à ses propres disciples, mais vous savez même pas par quel esprit vous êtes animés. Ils avaient un problème avec un soi-disant concurrent, n'est-ce pas? Jésus a dit, mais vous savez même pas par quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, ses disciples. Donc ça peut arriver même à un disciple de Jésus, à quelqu'un de vraiment proche de Jésus. Mais Dieu avait oint Saül lors de sa rencontre avec la troupe de prophètes. On peut dire qu'il y avait eu une autre fois déjà dans 1 Samuel 10, 9 à 11. Saül est avec Samuel et puis en entrant dans la ville, verset 5, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descend du haut lieu précédé de luth, de tambourin, la flûte, la harpe, et qui prophétise. Vous voyez, toujours la musique. L'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, tu deviendras un autre homme. Alors, lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi, puis tu descendras avec moi à Gilgal, etc. Verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu vint sur lui, prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Vous voyez? Voilà l'esprit de Saül. C'est vraiment l'esprit de Dieu, mais ça ne dure qu'un temps. Après, Saül revient comme avant. Je reviens au paralytique de Bethesda, ça me fait penser à ça. Quelques moments après avoir été guéri, Jésus rencontre l'ex-paralytique de la piscine de Bethesda, puis lui dit de ne plus pécher, parce que s'il pêche, sa situation risque de devenir pire. Eh bien, le pire est arrivé à ce pauvre Saül. il est retourné dans sa condition précédente, et cela peut arriver parce que ce n'est pas parce qu'un jour Dieu t'a visité que tu es immunisé contre le mal. La Bible dit, tu dois te garder toi-même. Ce qui est arrivé à Saül, ça lui est arrivé parce que il a cessé de marcher correctement, alors que Dieu l'avait oint. Dieu lui avait parlé par Samuel, lui disant qu'il deviendrait un autre homme. 1 Samuel 10, 6, on vient de lire. Mais il ne devint pas un autre homme longtemps. Pourquoi ? Parce que la porte de son cœur était ouverte à d'autres esprits qui étaient en conformité avec son âme jalouse, son âme qui recherchait le pouvoir, la gloire, l'honneur, les femmes et toutes ces choses. Mes frères et sœurs, il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Il faut être chrétien ou alors carrément païen. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, je crois, c'est écrit, « Voici, tu es tiède. Puisses-tu être bouillant ou froid ? Mais voici, parce que tu es tiède, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. » Sois chrétien ou franchement, sois un païen, mais sois pas comme ça. Sois pas à moitié-moitié. Veillons, prions. Prions le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans les ordres de la Bible. Hein. Détournons-nous des fables. Là, j'ai une dame qui me parle. Elle voit des orbes d'anges, vous savez, des tyrans qui se baladent comme ça. Ah, il y en a là, c'est un ange. Ah, là, il y en a un, c'est un ange. Mon Dieu, ça, c'est tout des trucs du New Age. En fait, c'est des... Bien sûr que je crois aux anges. Mais le New Age, ils nous ont volé toutes ces choses-là, ils les ont tournées dans un sens un peu bizarre. Mais nous sommes chrétiens. On n'a pas à adopter ces trucs New Age. Et discernons si nous-mêmes nous sommes animés par le Saint-Esprit ou pas. Discernons si c'est une ambiance qui nous change momentanément ou si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous a changé, qui nous a fait naître de nouveau. Beaucoup de choses vraies ont été détournées par des gens faux. Ne les suivez pas. J'avais un très cher ami qui avait des grandes douleurs dans son épaule et il me disait que c'était un mauvais esprit qui l'attaquait. Il me demandait la prière. Alors je priais pour lui et ça partait, mais ça revenait, et il me disait, oui, mais c'est normal. Un jour, il a fini par me dire, oui, mais c'est normal, mon prophète, et c'était un prophète d'Afrique, un Corin, m'a dit que, voilà, ça sortirait pas comme ça, qu'il fallait que je lui envoie de l'argent pour qu'il puisse consacrer beaucoup de temps pour moi dans la prière, alors je lui envoie de l'argent chaque mois, et je lui dis, mais frère, attention, il est en train de vous pomper tout votre pognon, il me dit, je dis, mais allez vous faire opérer, c'est un truc tout simple, allez vous faire opérer. Il me dit, non, le prophète m'a dit que si je me mettais sur une table d'opération, je mourrais pendant l'opération. Vous voyez, ça, c'est horrible, c'est affreux, c'est méchant, c'est mauvais. Faites attention, sous quelle onction vous vous mettez, avec qui vous vous mettez, qui sont les gens qui vous parlent, qu'est-ce que c'est leur vie? Qu'est-ce que c'est les résultats qu'ils ont dans leur vie? Depuis combien de temps? Est-ce qu'ils sont stables dans les choses de la foi? Ou est-ce que... Ne éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ne gobez pas tout. C'est pas parce que quelqu'un paraît spirituel et vous prophétise un truc une fois qui est vrai, ou deux fois, ou même 10 fois, que lui-même il est vrai. La Bible dit qu'il y aura des faux loin, des gens qui seront loin, mais faux, et vous conduiront où? Ben non, le faux. À la fin, c'est la ruine. C'est la ruine soudaine. Alors, je vais terminer. Je ne vais pas continuer jusqu'à après-demain. On va lire un texte dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 5. Alors, Philippiens, où est-ce qu'il se cache, mon Philippiens? Et c'est une nouvelle Bible que j'ai là. Alors, Philippiens 2, 5, 8. Écoutez bien. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettant en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alors faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et voilà, c'est ça. C'est pas d'être rempli d'envie de meurtre ou de quoi que ce soit d'autre, et puis tout d'un coup rencontrer des chrétiens, être dans l'ambiance, et puis hop, se mettre à être spirituel, et puis ensuite on retourne à notre truc. Non. On est chrétien. Et et on le prouve par une attitude qui est conforme, qui est identique à l'attitude et au comportement de Jésus-Christ, d'une façon constante. Bon, il peut nous arriver de faire de temps en temps une bêtise, Dieu nous pardonne, il est miséricordieux, mais là, Saül, il était vraiment, il était grave. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage, faites comme l'apôtre dit là, faites comme il dit, relisez ce passage, mettez en œuvre votre salut, c'est-à-dire vous avez été sauvé, mettez-le en œuvre, montrez par les œuvres que vous êtes sauvé, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de m'avoir aidé à prêcher ce message un peu spécial, et j'espère que ça a répondu, mon Dieu, aux questions qu'on me pose, et que cela va aider certains à se sortir de trucs invraisemblables. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. Allez, au revoir, à bientôt.